Voilà. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, nous sommes en randonnée biblique en ce moment. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons décidé depuis dimanche dernier de faire une randonnée biblique autour du Sermon sur la montagne. Et donc, aujourd'hui, donc c'est la deuxième étape de notre randonnée, deuxième dimanche. Et la semaine dernière, dimanche dernier, nous sommes partis, nous étions heureux. N'est-ce pas? Nous étions heureux de lire dans les Béatitudes. Nous nous sommes mis en marche et tout allait bien. Cette première partie était plutôt agréable. On nous a parlé de bonheur, on nous a parlé d'espérance, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous arrivons à notre deuxième étape et je dois avouer que nous allons commencer à gravir notre première colline. On dirait, dans le Tour de France, notre première difficulté. Et elle va nous donner un petit aperçu des prochains cols qui seront à franchir dans la suite de notre randonnée et qui ne seront pas toujours faciles à franchir, qui vont nous poser questions et difficultés. Mais avec l'aide du Seigneur, tout est possible et nous arriverons bien sûr à la fin de notre randonnée. Alors j'espère que vous avez pris vos vitamines pour ce matin, pour suivre cette étape. Je vous invite à mettre vos chaussures, à prendre votre gourde et votre sac. Vous êtes prêts? On y va? Alors prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre lumière. C'est toi qui nous guides sur nos sentiers de vie. Sans toi, nous nous perdrions, nous serions dans le noir et nous serions errants. Merci parce que c'est toi qui es notre guide. Notre guide aussi durant cette randonnée biblique que nous avons décidé de faire durant ces 40 jours. Merci de nous envoyer, de nous donner encore l'inspiration de ton Saint-Esprit et d'ouvrir nos cœurs à ta parole encore ce matin et à ce que tu veux nous partager. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc en reprenant les béatitudes de la semaine dernière et en y ajoutant le texte du jour. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville établie sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ah, désolé, mais bon. Jésus a donc commencé son enseignement par des généralités. Comme nous l'avons vu, la semaine dernière, il a appelé heureux ou en marche des catégories de personnes qui pourraient être à la fois tout le monde, comme par exemple la foule qui le suit, les disciples qui s'approchent de lui pour écouter son enseignement, ou bien toi ou moi. Il évoque ceux qui se sentent spirituellement pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui sont humbles, qui ont faim et soif de justice, ceux qui témoignent de bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui répandent la paix autour d'eux, ceux qui sont opprimés pour la justice. Et puis, tout d'un coup, vous l'avez peut-être remarqué à l'écoute de ce passage, le discours change. Alors qu'il était indirect, il devient tout d'un coup direct. Jésus s'adresse directement en effet à ses disciples pour leur dire en substance qu'ils sont heureux, eux, quand ils sont persécutés. Je simplifie les quelques versets concernés. Avoir faim et soif de justice, ou bien encore pleurer et savoir qu'un jour, eh bien, on trouvera la réponse à nos aspirations et on trouvera le bonheur, eh bien, c'est une chose. Mais être heureux d'être persécuté, c'est différent. À l'idée même que la persécution pourrait frapper à notre porte, eh bien, notre réflexe, c'est pas de lui ouvrir, mais c'est bien plutôt de nous enfuir. Parce que nous n'avons pas envie de souffrir. Et puis, même si les récompenses nous attendent dans la suite, même si quand nous répandons la paix, même quand nous avons soif et faim de justice ou quand nous sommes humbles, eh bien, ça n'est pas toujours facile à vivre dans ce monde qui est rempli de violence, d'injustice et d'orgueil. Quand on cherche à être un disciple du Christ, on se retrouve ainsi sûrement moqué, rejeté, incompris, persécuté parfois. Les hommes de ce monde ne se posent pas de questions, eux. Ils sont orgueilleux, égoïstes, ils sont menteurs, tricheurs, sans compassion. Et pourtant, des fois, quand on regarde leur vie, ce qui leur arrive, tout semble leur réussir. Pourquoi alors ne pas être comme eux? Cette question, peut-être, vous l'êtes déjà posée. Moi, ça m'est déjà arrivé de me la poser. Et la tentation est grande, y compris pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, de finir par chercher à leur ressembler. Et Jésus connaît nos cœurs. Il connaît nos vulnérabilités, il connaît nos fragilités. Elles sont à la fois nos forces, mais elles peuvent être aussi nos faiblesses. Elles peuvent être aussi des occasions de chute pour nous. Il sait qu'un jour, il ne sera plus physiquement avec ses disciples qui sont en train de l'écouter. Il sait qu'un jour, il ne sera plus physiquement là, alors il va les encourager et il va surtout leur adresser une vocation, afin qu'ils comprennent que peu importe qui ils sont et peu importe la situation qu'ils vivent dans ce monde, eh bien, ils ont un rôle à tenir qui est très important et qu'ils ne doivent pas renoncer à être ce qu'ils sont pour devenir comme les gens de ce monde. Parce qu'alors, ils seront méprisés par eux. Donc, Jésus adresse une vocation à ses disciples, à tous ceux qui lisent, qui écoutent ses paroles, et donc à vous et à moi. Cette vocation, il nous l'adresse aujourd'hui. Sois le sel de la terre, sois la lumière du monde. Beaucoup de commentaires font une large place à la manière d'être le sel de la terre, et nous allons y revenir. Mais nous devons d'abord poser quelques bases. Le sel et la lumière sont deux éléments qui sont à la fois indispensables et qui ont ce point en commun d'être indispensables, pardon. Tout d'abord, ils sont indispensables, notamment à l'époque de Jésus, Aujourd'hui, par exemple, il est facile d'avoir de la lumière pour nous éclairer dans nos maisons, ou bien quand on va dehors se promener dans la rue la nuit, on a l'éclairage public. Pour nous, ça semble naturel, facile, etc. Mais à l'époque de Jésus, la lumière, elle était précieuse. On en avait besoin pour s'éclairer dans la maison. Et quand on sortait dehors, eh bien, il faisait nuit. Il pouvait y avoir des voleurs, des brigands qui pouvaient nous attaquer. Si on n'avait pas de lumière, ça pouvait être dangereux. Et puis, la lumière, elle est aussi indispensable pour la santé physique. Vous savez que on en a besoin parce que, bien, ça nous donne de la vitamine D, ça nous donne une bonne santé morale, ça participe à la photosynthèse des végétaux, donc la lumière a plein d'avantages. On en a vraiment besoin, elle est vraiment indispensable pour nous. Et ceux qui habitent dans les régions du Nord, et Johan est bien parlé pour vous en parler, quand il voit le ciel gris toute la journée, eh bien, c'est pas facile. Et puis, il faut aussi bien savoir la doser, la lumière. Parce que quand on n'en a pas ou pas assez, on a du mal à voir. Mais quand il y en a trop, vous savez, par exemple, quand vous êtes la nuit et puis que vous croisez les voitures avec les feux de route grands ouverts et puis que vous êtes ébloui, eh ben, c'est pas facile non plus de voir. Donc, il faut savoir aussi bien la doser, la lumière. Mais sur les deux images que Jésus nous donne, c'est celle du sel qui m'a le plus interpellé et c'est celle sur laquelle je vais m'attarder le plus longtemps et je vous laisserai méditer individuellement ou en groupe de maison plus sur l'image de la lumière. Et le sel aussi est un élément qui doit être bien dosé. Quand un plat n'est pas assez salé, bien évidemment, il est fade. Mais s'il est trop salé, il ne donne pas très envie d'être mangé, il peut être immangeable et même des fois on peut avoir envie de le jeter. Donc le sel doit être bien dosé, mais il est aussi indispensable. Alors là aussi c'est pareil, dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui, peut-être que ça nous l'apparaît moins. Mais à l'époque de Jésus, il était vraiment indispensable, il était incontournable dans la vie du quotidien. Il était incontournable dans la vie sociale, culturelle, religieuse, dans la vie de tous les jours pour chacun. Alors bien sûr, il préservait les aliments, il évitait qu'ils se putréfient, il désinfectait, il servait bien sûr de condiments pour les aliments. Et lorsque on mangeait le sel de quelqu'un, par exemple, quand on partageait sa table, eh bien, quand on mangeait le sel de quelqu'un, c'était comme si on voulait exprimer le fait qu'on était de sa famille. Mais le sel servait aussi dans d'autres circonstances. Par exemple, il servait à calmer les rages de dents. On s'en servait, nous dit la Bible, pour frotter les nouveau-nés lors des accouchements, en signe de protection. Ou bien, lorsque deux parties concluaient un accord, eh bien, ils suçaient, dit-on, quelques grains de sel pour dire que cette alliance était durable et inviolable. Et puis encore, dans les rites religieux, le sel servait à saupoudrer les sacrifices qui étaient établis par la loi. Et donc, il servait de signe pour ce sacrifice. Toutes les offrandes donc étaient saupoudrées de sel. Mais ainsi que nous le voyons, donc le sel était vraiment un élément indispensable à la plupart aux habitants du Proche-Orient de l'époque de Jésus. Et nous allons voir que nous aussi, quelque part, en tant que sel de la terre, nous sommes appelés à être indispensables dans ce monde et nous devrions faire partie du quotidien des gens en tant que sel de la terre. Alors, il existe différents modes d'extraction du sel. Et il nous faut d'abord parler de ça, pour poser les bases également. Il existe différents modes d'extraction du sel. Alors, vous savez que le sel, on peut le trouver de différentes façons. Par exemple, on peut le trouver dans des mines. Alors, on va creuser, on va mettre le sel dans ce que l'on appelle des chambres, on va faire des piliers de sel. Et puis, on va concasser et on va évaporer par ce sel et ça va donc donner le sel que l'on va extraire et que l'on va ensuite utiliser pour les aliments. À l'époque de Jésus, on utilisait un mode d'extraction bien connue de l'époque, qui était d'extraire le sel de la mer morte, qui n'était pas très loin. Et là, on utilisait des marais salins, et là aussi, eh bien, grâce à l'évaporation de l'eau, eh bien, on pouvait extraire le sel de ces endroits. Et nous aussi, eh bien, nous avons été extraits du monde. Jésus est venu nous chercher là où nous étions, dans le milieu social et culturel où nous étions. Il a pardonné nos fautes, il nous a délivrés de la loi, du péché et de la mort. Il nous a donné une nouvelle identité, il nous a donné une nouvelle vie et il nous a introduits dans une vie, je dirais même, éternelle. Mais pour que nous devenions un grain de sel sur cette terre, eh bien, il doit encore nous purifier. Il doit encore nous affiner en tant que grain de sel. Il faut qu'il fasse cela afin que nous puissions être à son goût. Pour que ce goût qu'il veut que nous ayons, pour que nous puissions avoir ce goût qu'il veut que nous ayons sur cette terre. Et la différence, c'est que par rapport au sel, eh bien, c'est que nous, eh bien, nous ne nous laissons pas toujours faire comme le sel. Parfois, nous refusons de nous laisser utiliser par le Seigneur ou bien nous tergiversons. Néanmoins, nous ne pourrons pas devenir un grain de sel de la terre si nous ne nous laissons pas façonner par le Seigneur et si nous ne nous laissons pas agir à travers nous. Ayez regardé de près, les disciples à qui Jésus adresse cette vocation n'avaient rien de spécial en tant que grain de sel de la terre. Il paraissait même insignifiant, comme ce grain de sel. Il n'était, les 12 apôtres par exemple, il n'était ni riche, ni célèbre, il n'avait pas une grande popularité. Pourtant, c'est eux qui sont appelés le grain, le sel de la terre et la lumière du monde. Ils n'ont rien à faire pour le devenir. Non, ils le sont déjà. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Ils n'ont pas quelque chose de particulier à avoir non plus, comme la capacité par exemple de prêcher, ou bien la capacité à s'engager dans des œuvres missionnaires, ou la capacité à avoir un cœur généreux hors normes. Non, rien à avoir, rien à posséder, juste être ce sel de la terre. Pas besoin de formation, pas besoin de diplôme, pas besoin d'être un érudit de la Bible. Nous sommes le sel de la terre parce que Jésus nous a appelés. Il nous a adressé cette vocation à nous de l'accepter ou non. Mais pour mieux l'accepter, eh bien, il faut peut-être maintenant se demander qu'est-ce que cela veut dire être le sel de la terre. Le sel, vous le savez, est composé de deux éléments. Le chlorure de sodium, NaCl, si vous vous rappelez vos cours de chimie. En tant que grain de sel, nous aussi, nous avons deux molécules qui nous définissent fondamentalement dans notre vocation saline. Alors, nous avons tout d'abord la vérité. Le sel, dans la terminologie biblique, eh bien, il est symbole de vérité jusqu'à la saveur de la vérité qu'est la sainteté. Le Christ se définit comme la vérité. Il répondra à Thomas en Jean 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est donc une personne. Ça n'est pas une forme de connaissance. Lorsque nous accueillons ainsi le Christ en nous, sa nature véritable chasse peu à peu le chaos de nos vies et de nos cœurs, à condition bien sûr que nous le voulions. La parole de Dieu est aussi la vérité. Ainsi que il le déclare toujours en Jean, cette fois-ci au chapitre 17, il dira dans la prière sacerdotale, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce que ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver du mal, car ils ne sont pas de ce monde comme moi je ne suis pas de ce monde. » Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Il nous faut donc nous nourrir de la parole de Jésus, de la parole de Dieu. Il nous faut la dévorer, il nous faut la faire nôtre pour avoir la saveur du royaume de Dieu. Et puis le Saint-Esprit est un esprit de vérité, ainsi que le révèle Jésus à ses disciples en Jean 16. Et cet esprit de vérité nous conduira dans la vérité. Se nourrir de la parole de Dieu et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu est quelque chose qui nous permet d'avoir un relief différent, quelque chose qui nous permet d'avoir une vie différente, quelque chose qui nous permet d'être différent des gens de ce monde. Cela nous change, nous transforme, pour que nous puissions devenir vrais, authentiques, simples, transparents. Alors nous serons effectivement différents des gens de ce monde et nous pourrons apporter de la saveur autour de nous. Et puis, alors, il y a donc la grâce. Que votre parole soit toujours assaisonnée, toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, dira Paul en Colossiens 4. En tant que sel, nous devons tenir aux hommes le langage de la vérité, celle que le Christ nous a transmise. Mais cette vérité doit être accompagnée de grâce, parce que la vérité, eh bien, elle n'est pas toujours facile à entendre. Entendre, par exemple, que nous sommes pécheurs, que nous sommes promis à une mort éternelle, ce qui signifie être séparés pour l'éternité de Dieu, c'est difficile à entendre. Et puis, aujourd'hui, quand on parle de péché, eh bien, on a du mal à entendre ce mot, parce que on nous dit tout de suite « tu me culpabilises ». Ou bien parler d'enfer aujourd'hui à quelqu'un, et il y a des chances qu'il se moque gentiment de vous, en vous disant que c'est dépassé tout ça. Malheureusement, la communication de l'Église en tant qu'institution au fil des siècles, eh bien, n'a pas permis de produire une bonne communication du message de l'Évangile, mais l'a plutôt desservi de ce point de vue-là. Mais entendre aussi, d'un autre côté, que Jésus est le Christ, qu'il est mort pour nous sur une croix, et qu'il est ressuscité, et que nous aussi, un jour, on ressuscitera. Ça n'est pas facile non plus à entendre. Ça n'est pas non plus facile à comprendre. Et pourtant, c'est également la vérité. Pour nos esprits scientifiques et rationnels d'aujourd'hui, en tout cas, ce ne sont pas des vérités faciles à comprendre. La vérité nous gêne quand nous l'entendons. Et elle n'est pas facile à dire parce que, eh bien, elle suscite de l'opposition. Il faut donc la grâce pour que la vérité puisse, eh bien, passer. Jean, au commencement de son évangile, nous rappelle que la loi a été donnée par Moïse et que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés à faire preuve d'amour, de patience, de bonté, de bienveillance envers les autres et en leur rappelant que s'il y a une vérité terrible concernant l'état du cœur de l'homme, eh bien, il y a aussi l'amour et la grâce de Dieu et l'espérance qui est attachée à cette grâce qui y est attachée. Simple, vrai, authentique, transparent, bon, bienveillant, patient, doux, voilà la saveur que nous sommes appelés à avoir dans ce monde comme grain de sel et cette saveur que nous sommes appelés à diffuser par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, par la méditation de la parole de Dieu et par notre relation avec le véritable qui est Jésus-Christ. Cela nous rappelle peut-être les caractéristiques du fruit de l'Esprit ou bien les caractéristiques des béatitudes que nous avons lues la semaine dernière. Notre parole doit être accompagnée de grâce, mais non de poivre. Notez. Parce que, qu'est-ce que fait le poivre quand on s'en approche? Eh bien, quand on s'approche du poivre, notre réflexe, c'est d'éternuer. Et alors, quand on éternue, ben, on s'éloigne. Et malheureusement, nous pouvons, individuellement ou même des fois comme Église, eh bien, être piquant. Et quand les gens s'approchent de nous ou de l'Église, je ne dis pas forcément la nôtre, mais de l'Église en général, d'une Église, eh bien, ils peuvent être, voilà, avoir ce sentiment d'éternuement et de s'éloigner aussitôt. Et le message ne sera pas passé parce que, au lieu d'être grain de sel, nous aurons été grain de poivre. Et puis, le sel, voilà, le sel donne soif. Quand on a mangé du sel ou un plat salé, eh bien, on a soif. En tout cas, bon, c'est la sensation qu'on éprouve. En réalité, c'est le corps qui exprime son besoin de stocker de l'eau pour faire face à l'apport de sel qui a été amené par un plat trop salé. Mais gardons l'image de la soif. En tant que sel de canne, eh bien, nous sommes appelés, nous aussi, à donner soif aux cannois. Eh bien, en Jean 16, Philippe dira à Jésus, « Mais vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus a su donner soif à ses disciples par les paroles qu'il leur a enseignées. Et témoigner, c'est manifester par nos paroles et par nos actes le message de l'Évangile. Mais c'est encore plus que cela. C'est faire désirer aux autres ce que nous avons reçu. C'est cette nouvelle vie que nous avons reçue et aussi la paix, la joie, la liberté, l'espérance, l'amour que nous avons trouvé en adhérant aux paroles du Christ. En recevant Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, nous sommes devenus des êtres nouveaux, avec un nouveau cœur. Et si nous laissons Dieu agir chaque jour en nous et par nous et nous changer, eh bien notre entourage va le voir. Et cela va lui donner envie, va lui donner soif de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, qu'est-ce qui fait que nous sommes comme nous sommes, ce grain de sel. Et puis, le sel, bien sûr, c'est un grand classique, conserve. Le sel conserve les aliments, il les préserve de la putréfaction, il a une action purificatrice, et par la prière, par sa vie, par son témoignage, eh bien, l'Église freine la corruption du monde. Non seulement nous devrions être intègres, comme par exemple, vous vous en souvenez, le prophète Daniel, qu'il a été en son temps, mais en plus, eh bien, nous devrions non seulement donc refuser les compromis douteux, comme lui, dans nos vies, mais en tant que sel de la France, nous sommes appelés en tant qu'Église aussi à prier pour que le péché et la corruption ne prennent pas plus d'ampleur dans notre pays. Quotidiennement, nous respirons cette ère de corruption avec des paroles mensongères, des pensées tortueuses ou bien des raisonnements qui permettent de transformer le mal en bien et le bien en mal. Et hier soir, nous avons vu au groupe de jeunes à Grasse que le pasteur qui nous a fait le culte du groupe de jeunes nous disait que c'était l'apanage du diable de faire cela. Cette corruption pollue notre climat en France et partout dans le monde. Et nous y sommes exposés nous aussi. Et si nous nous laissons gagner par cette corruption, par cette pollution, eh bien nous perdrons notre saveur de sel. Et nous perdrons et nous raterons notre vocation. C'est premièrement dans la famille que nous sommes appelés à être du sel pour nos conjoints et puis du sel pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Eux, ils vivent quotidiennement, nous aussi bien sûr, mais eux particulièrement, nous voulons penser à eux parce qu'ils vivent tous les jours dans cette corruption. Et le péché change de visage au fur et à mesure que les générations changent. Il s'adapte à chaque génération et propose de nouvelles formes. Et pour nous, qui sommes plus âgés, parler, témoigner de l'Évangile à nos enfants ou à nos petits-enfants, c'est difficile parce que des fois, il y a un décalage avec eux et nous pouvons être déphasés, peut-être même des fois dépassés parce qu'ils ne vivent pas la même chose que nous, parce qu'ils n'ont plus les mêmes problématiques que nous. Et alors, en tant que grain de sel, nous sommes vraiment appelés à nous adapter à eux, à savoir doser notre message et à savoir l'adapter pour qu'ils puissent eux aussi le comprendre. Et c'est un réel défi. C'est un réel défi pour nous que de faire cela. La vérité nous sanctifie, elle nous met à part. Nous ne sommes pas appelés à être conformistes, à respirer l'air de ce monde, mais à respirer l'oxygène de la présence de Dieu, grâce à la prière. Nous sommes appelés à être à contre-courant de cette société. Et c'est là que se situe tout l'enjeu pour nous comme grain de sel. Et vous voyez, justement, je vous parlais de cette première colline que nous franchissons aujourd'hui. Peut-être vous voyez la difficulté au fur et à mesure qui apparaît, tout cet enjeu qu'il y a pour nous d'être grain de sel dans la terre, sur la terre. Et Olivier nous a lu tout à l'heure ce passage où il était question de démasquer le péché, si ma mémoire est bonne, dans ce passage. Et justement, démasquer le péché, parler de péché, le dénoncer, c'est ce que nous devrions être amenés à faire. Professer le message de l'Évangile avec vérité et avec amour, dénoncer donc ce péché, cette corruption, eh bien ça nous amène inévitablement quelque part à la persécution, du moins peut-être à la compréhension, au rejet, à la moquerie, à des formes peut-être atténuées de persécution, mais quand même à une certaine forme. Être intègre, être saint, a des conséquences et ça n'est pas toujours facile à vivre. Et la tentation, comme je le disais tout à l'heure, de cesser d'être celle de la terre peut alors être très forte. Mais si nous renonçons à donner de la saveur à ce monde et si nous cessons de dénoncer son péché, si les chrétiens baissent les bras, eh bien ce monde n'en aura plus pour longtemps. Or, nous devrions aspirer à ce que tous les hommes puissent connaître le message de l'Évangile. Et Paul dira à Timothée, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » C'est aussi ce à quoi nous devons aspirer. Et tant que cela est possible, nous sommes appelés à être ce grain de sel qui va témoigner et dénoncer à la fois le péché pour pouvoir mieux proclamer le message de la liberté en Christ, de la grâce de Dieu sur nous. Voilà le défi qui est devant nous. Et puis le sel a encore d'autres fonctions. Le sel fait fondre la glace. Quand il neige ou quand il gèle, eh bien vous le savez, eh bien on répand du sel sur les routes pour qu'elles soient de nouveau praticables. Et dans nos vies aussi, eh bien certaines relations peuvent être gelées. Nous n'arrivons pas à briser la glace. Pire, nous entassons des fois des murs de glace entre les autres et nous, y compris entre chrétiens. Ça arrive. D'abord parce que nous avons comme une irrésistible envie, eh bien, de nous comparer, de juger et de critiquer les autres. Et puis il y a aussi les différences entre évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, catholiques, orthodoxes, etc. Tout ça font autant de blocs de glace, parfois, dans certains types de relations. Ce sont des blocs de glace qui gênent nos relations, alors qu'au contraire, en tant qu'Église du Christ, nous sommes tous différents et nous devrions être, ça devrait être notre force. Parce que nous avons besoin les uns des autres pour être sel et lumière dans ce monde. Et Jean écrira dans sa première lettre aux Églises la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En Marc 9, Jésus dira également « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix. » Soyez en paix les uns avec les autres. Ce qui nous permet comme sel de briser la glace dans nos relations, eh bien, c'est le pardon et la prière. Être des femmes et des hommes qui prient et qui pardonnent aux autres, voilà ce qu'est être le sel de la terre également. Quand nous prions pour les autres, peu à peu, eh bien, notre esprit de jugement, de comparaison, de critique s'estompe et laisse place au pardon, à l'amour, à la compassion. Quand l'Esprit Saint œuvre en nous, il nous pousse à la réconciliation avec les autres, jusqu'à aimer nos ennemis. Quand des disciples, bien que très différents, sont ainsi soudés entre eux, que ce soit dans un groupe de maison, une église, une union d'églises, dans une œuvre caritative, dans des églises de dénominations différentes, peu importe, la glace fond alors. Et elle rend le seuil de nos maisons, de nos temples, de nos églises, de nos communautés accessible. Quand nos relations ne sont plus gelées dans nos communautés, cela permet ainsi aux chrétiens de sortir dehors et annoncer pleinement le message de l'Évangile et aussi à ceux du dedans, eh bien, de venir entrer, entendre le message de l'amour de Dieu. Et ça m'amène à un dernier point, c'est que le sel doit sortir de la salière. Alors, il n'y avait peut-être pas des salières à l'époque de Jésus, mais j'ai trouvé cette image dans mes recherches et j'aime bien cette image. La vocation que Jésus adresse à ses disciples, eh bien, elle n'est pas qu'individuelle, elle est collective, et vous avez compris déjà, puisque j'ai tantôt parlé de sel en tant qu'individu et en tant que, parfois, église. La vocation que Jésus adresse donc à ses disciples est également communautaire. Il est bon pour nos églises d'être des églises salières. Le sel n'est pas fait pour rester éternellement dans nos salières. Et nous le faisons sortir, bien sûr, pour le faire aller sur nos aliments. Mais si le sel reste trop longtemps dans la salière, que se passe-t-il ? Eh bien, il prend l'humidité, il cristallise, il se met en paquet, et il veut plus sortir. Alors, le sel est appelé à passer de la carrière dans laquelle il était, du marais salin où il était, à nos aliments, en sortant de la salière. Comme nous, nous sommes de passage sur cette terre en tant que grains de sel, mais nous sommes appelés justement à sortir de la salière pour le peu de temps que nous sommes là. Mais quand le sel est oublié dans la salière, eh bien, il refuse d'en sortir parce qu'il est trop bien installé. Les premiers chrétiens ont aussi commencé à bien s'installer dans leur vie d'église à Jérusalem, les tout premiers chrétiens. Et puis, petit à petit, justement, eh bien, des petits paquets avaient commencé à se former dans la salière de Jérusalem. On commençait à trouver le paquet des Juifs et puis le paquet des Hellénistes ou des Grecs. Il commençait à y avoir un petit peu des discussions entre eux, on va dire ça comme ça. Mais ils avaient oublié que le Seigneur leur avait dit qu'ils devaient aller prêcher l'Évangile en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que s'est-il passé ? Acte 8 nous montre que Jésus a envoyé la persécution. Il a envoyé un grand coup de pied dans la salière de Jérusalem pour que le sel soit bien bien remué et qu'il sorte de la salière. Et grâce à ça, la bénédiction de Dieu a pu se répandre partout. Et aujourd'hui aussi, dans l'Église du Christ, eh bien, il peut se former des petits paquets, des clans, des groupes par affinité. On trouve parfois des dénominations différentes au sein d'une même communauté, d'une même localité, pardon. Et chacun est bien dans son Église. Et dans une même Église, il peut arriver que les membres soient tellement bien qu'ils en arrivent finalement à confondre l'Église avec comme un espèce de club associatif où on se retrouve entre soi et où on est bien. Et finalement, eh bien, ils ne veulent plus en sortir de la salière. Prions pour nos Églises en Occident. Parce que Acte 8 nous montre que Dieu a utilisé un bon coup de poing dans la salière avec la persécution. C'est pourquoi presque j'aurais envie de dire qu'il est préférable d'être une église heureuse parce qu'elle est persécutée qu'une église malheureuse parce que c'est une église cocooning. Tout simplement parce qu'elle aura raté sa vocation d'être celle de la terre. Plus une église se donne à l'extérieur, plus elle est bénie à l'intérieur, dira Alain Choiquier, qui était un des célèbres fondateurs de l'église Paris-Nation dans les années 70 à l'époque. Alors prions pour que nos églises, quelles qu'elles soient, partout en France, partout en Europe, se réveillent et réalisent que si elles ne veulent pas être remuées par le Seigneur, par le biais de la persécution par exemple, eh bien elles sont appelées à aller s'aller de partout au dehors. Prions. Seigneur, être celle de la terre, lumière du monde, nous voyons que c'est tout un enjeu. Nous nous sentons peut-être bien démunis devant cette vocation que tu nous adresses. Nous nous trouvons peut-être insignifiants, peut-être nous demandons-nous bien quelle peut bien être la saveur que nous pouvons avoir au quotidien, quand nous fréquentons, quand nous côtoyons les gens autour de nous qui ne te connaissent pas. Seigneur, simplement ce matin, viens encore dans nos cœurs, viens dans nos vies mettre cette saveur que tu veux que nous ayons pour les autres, pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos collègues de travail, notre entourage, les personnes que nous pouvons côtoyer d'une manière ou d'une autre. Seigneur, sois toi-même cette saveur pour que nous puissions vraiment l'apporter à l'extérieur. Que nos églises partout en Europe, en France et ici à Cannes puissent être sel et lumière pour nos contemporains. Qu'elles puissent avoir cette saveur et qui leur permettra de pouvoir porter haut et fort le message de l'Évangile, à la fois avec vérité, mais avec amour et grâce également. Donne-nous, en tant qu'Église du Rioux, de trouver toujours plus cette saveur que tu veux que nous ayons dans les actions, dans le témoignage que tu veux que nous ayons. Merci de ce que tu vas faire encore dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.